Après les manifestations contre la présence donc de la MONUSCO en République démocratique du Congo, les forces de la mission des Nations Unies dans le pays ont finalement dû donc fermer leur base dans la ville de Butembo et quitter la région. De violentes manifestations ont en effet éclaté en RDC alors que la population a réclamé le départ des forces de la MONUSCO, l'accusant d'être incapable de mettre fin à la violence des rebelles. Plusieurs personnes ont été tuées lors de ces manifestations et le gouvernement a assuré que le calendrier de départ des éléments de l'ONU va être revu. Et mercredi, la base de Butembo a donc été officiellement fermée. La MONUSCO est déjà partie. Quant au matériel encore dans la ville, nous allons rencontrer à Goma les responsables de la mission pour voir comment le transférer, ainsi que le peu de personnel restant à Butembo. Donc, a déclaré le gouverneur de la province du Nord Kivu, le général Constant Kongba Dima. Il a précisé également donc que les déplacements du personnel et des équipements de la mission onusienne seraient supervisés par les services de sécurité congolais. Un porte-parole donc de la MONUSCO, Deye Khadilo, donc a déclaré que la mission a procédé à un redéploiement temporaire de son personnel hors de Butembo après concertation avec les autorités locales et nationales. Les manifestants ont donc finalement eu raison de la mission de l'ONU dans une partie de ce pays d'Afrique centrale. Tout porte à croire, compte tenu donc des dernières nouvelles fournies par le gouverneur du Nord Kivu. Toutefois, l'ONU, donc par la voix de sa porte-parole intérimaire, donc a assuré que la MONUSCO ne quittait pas Butembo. Et après des consultations engagées avec les autorités locales et nationales, la mission procède donc à un redéploiement temporaire de son personnel à l'extérieur de Butembo. Et cet épisode intervient après donc la multiplication des manifestations contre les soldats de la mission de l'ONU en RDC. Depuis fin juillet, trois casques bleus et donc des centaines pratiquement de manifestants ont été blessés et certains ont perdu la vie. En attendant, la MONUSCO risquerait de ne pas faire long feu vu la multiplication des manifestations, donc contre la présence de l'ONU et par la même occasion la demande des Congolais de se tourner vers la Russie. Il est clair que la MONUSCO ne pourra visiblement plus revenir à Butembo. Le ministre congolais de la Défense, Gilbert Kabanda Kurenga, donc avait ainsi l'opportunité donc qu'il a saisie donc de la participation de la RDC à la 10e conférence de Moscou qui s'était tenue le 15 au 18 août pour plaider en vue d'obtenir un appui multiforme de la Russie et des autres pays participants. Cette conférence a donc réuni 300 délégués venus de 40 pays pour réfléchir sur la sécurité internationale. La demande congolaise, donc lors de ces assises, a donc pour motivation d'obtenir des moyens nécessaires pour les forces armées de la RDC. Cet appui est nécessaire pour élargir les opérations contre les groupes armés, les forces négatives, les groupes terroristes et leurs alliés actifs dans les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu et de l'Ituri, où se commettent tous les jours des massacres dans l'indifférence de la communauté internationale. La visite en RDC du secrétaire d'État américain Antony Blinken n'ayant rien apporté de concret en termes de solutions pour ramener la paix à l'Est et la passivité de la MONUSCO qui exaspère les Congolais, beaucoup de Congolais ont donné la voix pour demander aux autorités de solliciter l'appui de la Russie. Moscou a joué un rôle déterminant pour stabiliser la République centrafricaine et le Mali a emboîté le pas et a renvoyé les Français avec l'opération Barkhane qui, malgré plusieurs années au Sahel et un équipement dernier cri, donc n'a pu obtenir qu'un résultat exécrable. Le président Poutine, qui a donné donc une conférence avec le président et l'ambassadeur de la Russie à Kinshasa, donc a parlé de renforcer la sécurité sur le territoire, sur toute l'étendue de la RDC. Et beaucoup de Congolais, donc pour eux, cette collaboration est extrêmement bien reçue. Selon eux, donc la Belgique est coupable de la division qui règne en RDC et la coopération avec la France, où la Belgique n'a fait qu'appauvrir le pays et entretenir des divisions nationales. Quand on veut s'allier à la France, à la Belgique ou encore à l'Union européenne, tout ce qu'ils ont fait, c'est de nous piller et de nous rendre pauvres. Et cette division, c'est la politique de la Belgique. Si aujourd'hui on parle des divisions nationales en RDC, c'est la Belgique, en l'occurrence, qui a créé ces divisions entre les pauvres, et ils savent qu'ici, ils peuvent continuer. La MONUSCO ou les États-Unis comptent renforcer ces divisions pour maintenir toujours la RDC dans un état d'insécurité totale. Les Congolais sont bien décidés à reprendre leur destin en main, et c'est pourquoi ils tracent la voie à suivre pour le gouvernement congolais. Ce dimanche, le colonel Abdoulaye Maïga a été désigné premier ministre par intérim en remplacement de Choguel Maïga, hospitalisé. Une nomination plus symbolique qu'il n'y paraît. Le 10 août dernier, le premier ministre malien Choguel Kokala Maïga était donc hospitalisé après un accident vasculaire cérébral. Interdit de voyager en Europe, Maïga devait alors se rendre au Maroc, en Turquie ou dans le golfe Persique pour y être soigné. Mais en attendant, les affaires courantes doivent être expédiées et un nouveau premier ministre a donc été désigné. Assimi Goïta a choisi de nommer à ce poste le colonel Abdoulaye Maïga. Certes, il a hérité donc de ce poste par intérim, mais l'hospitalisation de Choguel Maïga donc arrive à un moment où le premier ministre était de plus en plus contesté, aussi bien au sein de la classe politique qu'au sein du Conseil national de transition. Le cadre d'échange des partis, regroupement politique pour une transition réussie, le M5 et l'ADEMA PASCE, ont en effet exigé en juillet la démission de Maïga, une requête présentée 3 mois après que le CNT du colonel Malik Diaw avait demandé à Choguel Maïga de présenter son bilan jugé trop faible. Choguel Maïga, donc, peut-il encore revenir aux affaires? Abdoulaye Maïga, donc, peut-il remplacer définitivement le Premier ministre hospitalisé? En attendant d'avoir des réponses à ces questions, le choix du colonel pour remplacer Choguel Maïga est un message fort adressé par Assimi Goïta, notamment à la communauté internationale. Car celui qui était jusqu'ici ministre de l'administration territoriale et porte-parole donc du gouvernement est l'un des fers de lance du discours anti-Occident des autorités maliennes. On se rappelle évidemment qu'en juillet, Abdoulaye Maïga, par exemple, demandait à la France de quitter définitivement sa posture néocoloniale, paternaliste et condescendante. Et il a également été l'un des fervents partisans du retrait de l'opération Barkhane du Mali. Surtout que selon le protocole, Goïta aurait dû désigner en tant que premier ministre par intérim le colonel Sadio Camara, le ministre de la Défense. Et selon certains médias, ce dernier aurait refusé ce poste. Alors que Choguel Maïga représentait la société civile au sein du pouvoir, c'est donc un militaire qui est aux commandes du gouvernement. Et alors que le CNT est lui aussi dirigé par un membre des militaires, les civils semblent désormais exclus des hautes fonctions du pays. Reste désormais à savoir si Choguel Maïga a définitivement perdu son poste. D'un côté, c'est l'omerta autour de son état de santé, et si certaines sources affirment qu'il est en bonne voie de guérison, d'autres sont plus sceptiques quant à un retour aux affaires dans les semaines à venir. En attendant, ce que cela dérange que les militaires incorruptibles et patriotes soient au pouvoir au Mali, c'est bien les pays de la communauté occidentale et particulièrement la France. Ce sont les seuls à montrer donc leur mécontentement quant à la présence de militaires au sein du pouvoir malien. Pour rappel, les nombreuses manifestations du peuple malien en soutien aux militaires au pouvoir ont bien démontré que la France et ses alliés occidentaux n'ont strictement plus rien à dire. En prélude à la première session de la commission mixte de coopération Mali-Iran, donc devant se tenir en présence des ministres des Affaires étrangères des deux pays, les experts des deux parties ont examiné hier les nouvelles opportunités de partenariat bilatéral autour de plusieurs axes. À l'invitation de son homologue malien, le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, Hossein Amir Abdollahian, à la tête d'une importante délégation comprenant des représentants de départements ministériels et structures, ainsi que d'opérateurs économiques iraniens, effectuera donc à compter d'aujourd'hui une visite de travail de 2 jours au Mali. Au cours de son séjour, Hossein Amir Abdollahian aura des entretiens en tête-à-tête avec le ministre Abdoulaye Diop et devrait être reçu par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. En marge de cette visite se tiendra la première session de la commission mixte de coopération Mali-Iran. La dite session interviendra dans un contexte marqué de part et d'autre par les effets pervers des sanctions économiques et financières illégales et illégitimes imposées à l'encontre de ces deux pays à cause de leur choix souverainiste. Pour le Mali, donc, la tenue de cette session s'inscrit en droite ligne de la politique de diversification de ses partenaires stratégiques prônés par donc, les plus hautes autorités de la transition consécutivement aux enjeux géopolitiques et géostratégiques de l'heure, ainsi qu'à la détermination du peuple malien de prendre son destin en main. Les travaux de cette session ont été précédés hier, donc au département des affaires étrangères et de la coopération internationale, par une réunion des experts des deux parties. Cette rencontre a été co-présidée par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Tonkara, et le directeur du département du centre et de l'ouest de l'Afrique du ministère des Affaires étrangères d'Iran, Al-Akbar Rezaei. Les questions examinées ont porté sur les nouvelles opportunités de coopération bilatérale, s'articulant donc autour de plusieurs axes. Il s'agit des propositions et offres de partenariat de la partie iranienne, y compris celles faites lors de la visite du ministre Diop à Téhéran en février dernier dans les domaines de la sécurité, la lutte contre le terrorisme, la santé, l'enseignement supérieur, la recherche scientifique, la technologie, l'agriculture et l'élevage. La partie malienne devrait présenter donc des projets prioritaires identifiés. Ainsi, il était prévu une rencontre entre opérateurs économiques maliens et iraniens. Et dans son intervention, Abdoulaye Tonkara énoncera donc les travaux des experts préparatoires de la commission mixte de coopération Mali-Iran visent à renforcer les relations bilatérales, mais aussi une occasion de passer en revue les acquis de la coopération bilatérale économique et technique depuis l'établissement des relations entre les deux pays. Selon lui, donc, les échanges entre les deux délégations permettront non seulement de donner une nouvelle impulsion aux relations dans les domaines politiques, économiques et sécuritaires, mais aussi et surtout de jeter les bases de la tenue de cette commission mixte. Et de son côté, Al-Akbar Rezaei retiendra donc que la création de la dite commission mixte est le fruit du déplacement du ministre Abdoulaye Diop à Téhéran, ajoutant que cela témoigne le sérieux des deux parties à développer la coopération pour améliorer les intérêts de part et d'autre. Le diplomate iranien s'est dit sûr que les obstacles pourront être déterminés et remontés avant de rappeler que son pays est intéressé de pouvoir partager ses connaissances avec le peuple frère du Mali. Les deux parties conviendront donc de la mise en place d'un comité conjoint de suivi de la mise en œuvre des recommandations issues de la commission mixte et un communiqué conjoint de cette visite officielle, ainsi que le procès-verbal de la première session de la commission mixte de coopération Mali-Iran seront signés par les deux parties. Donc pour le secrétaire général, la nouvelle stratégie des plus hautes autorités maliennes visant à élargir et à diversifier le partenariat du Mali est en marche, comme en témoigne la présente réunion des experts dont l'objectif est de passer en revue les acquis de la coopération avec l'Iran, un pays important avec lequel le Mali voudrait renforcer ses relations d'amitié et de solidarité. Il est à préciser que la première commission mixte Mali-Iran est prévue, donc c'est 22 et 23 août, à Bamako sous la coprésidence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Abdoulaye Diop, et son homologue iranien, donc le docteur Hossein Amir Abdollahian. D'importants opérateurs économiques iraniens y sont également attendus en vue d'amorcer un véritable essor des relations bilatérales marquées par l'accroissement des investissements étrangers et la promotion des échanges économiques et commerciaux dans un esprit, évidemment, de coopération gagnant-gagnant et surtout de respect mutuel.
Selon le correspondant de politique étrangère de l'IRNA, Hossein Amir Abdollahian, le ministre iranien des Affaires étrangères, est arrivé à Bamako, la capitale du Mali, mardi matin 23 août. Le ministre iranien des Affaires étrangères a été accueilli par M. Abdoulaye Diop, le ministre malien des Affaires étrangères, à son arrivée mardi matin. M. Amir Abdollahian va rencontrer les responsables maliens. Le ministre iranien des Affaires étrangères est accompagné dans sa tournée africaine par une importante délégation composée de responsables gouvernementaux et d'hommes d'affaires des principales entreprises économiques et commerciales iraniennes. Une partie de l'envoi promis par l'Iran d'1 million de doses de vaccin Barkat COVID-19 serait également livrée au Mali à l'occasion de la visite du ministre iranien des Affaires étrangères. Hossein Amir Abdollahian, lundi, avant de partir pour sa tournée régionale en Afrique, au Mali, en Tanzanie et à Zanzibar, a déclaré que la République islamique accordait une grande attention à l'expansion des liens avec toutes les régions du monde. Les autorités congolaises ont mauvaise réputation auprès des entreprises locales car elles ne paient pas ce qu'elles leur doivent, ou alors avec d'énormes retards. La situation va peut-être s'améliorer grâce au cours du pétrole qui remonte et fournit à l'État d'importantes recettes budgétaires. Ce dernier commence à rembourser une petite partie de l'énorme dette intérieure. Ce paiement concerne 204 créanciers dont la facture varie entre 0 et 10 millions de francs CFA. Pour cet échantillon, la somme globale à payer est estimée à 1 milliard de francs CFA. Directeur général de la Caisse congolaise d'amortissement, Théodore Ikemo, explique la procédure de paiement. Chaque créancier nous apporte les documents qui sont exigés pour le paiement. L'administration s'occupe de la préparation du document constitutif du virement. Les virements iront au Trésor qui, à son tour, les transmettra à la Banque centrale qui se chargera du dispatching dans chaque compte communiqué à la CCA et dans l'ordre du virement, précise-t-il. L'ambassadeur représentant permanent du Gabon auprès des Nations Unies a, à l'occasion de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies consacrée au maintien de la paix et de la sécurité internationale sous le thème « Promouvoir la sécurité commune à travers le dialogue et la coopération », rappelé la position du Gabon en faveur d'un dialogue inclusif et permanent. D'après le diplomate gabonais, le contexte international est marqué par l'émergence de nouveaux pôles d'influence qui aspirent à reconfigurer les équilibres et les approches de la gouvernance nationale et internationale. De plus en plus multipolaire, le monde se cristallise à l'aune de la concurrence géopolitique entre plusieurs acteurs majeurs. Reconnaissant la nécessité pour les pays membres des Nations Unies de rester plus que jamais soudés, l'ambassadeur a précisé que l'avenir du monde se dessine politiquement et idéologiquement plus diversifié. L'indice des prix à la production industrielle IPPI a enregistré une hausse de 15% au premier trimestre de cette année au Cameroun, selon un rapport rendu public lundi par l'Institut national de la statistique. Dans un contexte international marqué par la crise ukrainienne et la reprise économique post-Covid-19, les prix de production de l'industrie agroalimentaire ont connu une hausse de 8,5%, alors que les prix du pétrole et du gaz naturel ont augmenté de plus de 30%. Dans l'autre sens, les coûts de production et de distribution de l'électricité, de l'eau et d'assainissement sont restés quasi stables pendant la période étudiée. Au Cameroun, l'IPPI mesure l'évolution des prix des transitions de biens industriels produits à l'intérieur du territoire économique dans le pays, c'est-à-dire les prix des parts usines payées aux producteurs. Il se calcule hors taxes et subventions et hors marge de transport.